Voix Nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, nous réécoutons la rencontre en 2004 entre Alain Weinstein et Jacques Lassalle qui vient de nous quitter.
Voilà un peu plus de 10 ans, Jacques Lassalle, que vous avez quitté la direction de la Comédie Française sans prendre en charge une autre institution, et 3 ans que vous avez pris votre retraite du conservatoire. Vous êtes donc un homme libre, désormais, et vous tentez, en France et à l'étranger, de faire le meilleur usage possible de cette liberté. Un usage qui vous conduit d'ailleurs de plus en plus souvent à l'étranger. Et dans ce deuxième entretien d'À Voix Nue, nous allons parler de vos séjours en Argentine. C'était à l'hiver et à l'été 2001-2002 pour Le Misanthrope. Et ensuite, on va essayer de se diriger vers l'Est, vers Varsovie, où vous a appelé en juin 2002 le Festival mondial des écoles de théâtre. Alors, l'Argentine, d'abord. 2 séjours.
C'est traditionnel, les 2 séjours, lorsqu'on est invité à faire une mise en scène. Le théâtre San Martín de Buenos Aires, qui est le grand théâtre institutionnel de la ville et même du pays, m'avait invité à mettre en scène Le Misanthrope. Son directeur, qui est d'ailleurs un critique d'origine, et qui fait des voyages assez récents en Europe, avait vu, je crois, peut-être même Le Misanthrope, que j'avais mis en scène peu de temps auparavant, en France. Et donc, je suis parti d'abord, c'était en octobre 2001, dans une Argentine déjà un peu inquiète, mais où tout se passait bien. Mmh. Je suis arrivé dans un théâtre très bien doté, et avec des moyens, un fonctionnement tout à fait huilé, enfin. Et nous avons procédé à ces 3 décisions capitales lorsqu'on met un spectacle en scène, surtout à l'étranger. L'établissement de la distribution, le travail avec le traducteur, précédé de correspondance, etc. Mais là, le texte est là, et pendant 4 ou 5 jours, on s'enferme avec le traducteur. Le traducteur du texte et aussi le traducteur, mais dans ce cas précis, il assurait les 2 langues, si j'ose dire, et on parle vraiment du texte. Et je l'invite, suivant les cas, à reconsidérer tel ou tel moment de sa traduction, ou inversement, il m'explique pourquoi il a choisi. C'est un moment très passionnant, tout à fait capital, le passage d'une langue à l'autre. Mmh. Et c'est vrai aussi en France. Je n'ai jamais, depuis que je mets en scène des pièces étrangères, je n'ai jamais fait l'économie d'une commande de traduction nouvelle. La traduction, traduire, c'est déjà mettre en scène. Et ce sont 2 moments que je considère, et ça n'est pas du tout en dénier l'importance, mais que je considère comme éphémères, comme circonstanciels. Le travail avec le traducteur est une aventure décisive dans l'intelligence qu'on peut avoir d'une œuvre, dans l'approche de l'altérité radicale de l'autre langue, et dans la découverte qu'on fait que ce qui est capital dans la traduction, c'est pas ce qui s'accomplit, c'est pas ce qui s'écrit, c'est ce qui est vécu comme la limite, l'impossible du traducteur. Mmh. Et ce que je demande au traducteur, c'est surtout de me dire ses détresses, ses sentiments d'échec, les moments où la mort dans l'âme, il renonce à capter, à trouver quelque chose qui pourrait apparaître comme une équivalence en français du texte original. Et c'est là où peut-être la mise en scène, le jeu, mais aussi la gestion du temps, du son, de la lumière, peut parvenir à faire dire au texte ce que tout seul il ne peut pas préserver. C'est, en ce sens, le travail de traducteur est un moment extraordinairement riche et passionnant. Oui, mais c'est vrai dans l'autre sens.
Ça veut dire aussi que le metteur en scène qui voyage beaucoup, comme vous, doit être polyglotte.
Non. Polyglotte, non. Simplement, ce que je demande, c'est... Mais même lorsque le traducteur parle très bien français, je demande une sorte de traduction sauvage en français de son texte en espagnol si c'est à Buenos Aires, en russe si c'est à Moscou, à Saint-Pétersbourg, en New North si c'est à Oslo. Enfin bref, je demande une traduction sauvage de ce texte qui pour moi est tout de même, dans un premier temps, une énigme, enfin une opacité totale. Et c'est à partir de cette traduction sauvage du texte étranger que j'interroge le traducteur dans un bord à bord avec sa traduction à lui. C'est ce qui me permet de comprendre. Quelquefois, ça nous a conduit, je me rappelle, avec, j'avais à Oslo, où j'ai mis en scène Bérénice de Racine, Tartuffe de Molière et La Cerisée de Tchekhov, j'avais pour traductrice, en tout cas de Racine et de Molière, une merveilleuse vieille dame, très très âgée, qui était considérée comme la grande poétesse nationale. Elle s'appelait Aldine Vezos. Elle était l'épouse d'un des romanciers norvégiens qu'on connaît le mieux en France, Vezos. Et elle avait une intelligence et une connaissance de la littérature française admirable, mais en même temps, elle avait la religion de l'alexandrin. Et elle voulait vraiment préserver l'alexandrin dans sa traduction norvégienne. En plus, il y a deux langues, une langue qui est plus une langue sabir, entre le suédois et le Danemark, les deux occupants. Donc c'est le swédish, une langue à peu près génériquement comprise dans ces trois pays. Et puis, la reconstitution artificielle, mais auquel les Norvégiens attachent beaucoup d'importance, de leur langue d'origine. Et ça s'appelle le Nynorsk, le norvégien ancien qui constitue la langue nouvelle, dans laquelle la Norvège trouve l'occasion d'affirmer une histoire, une identité singulière. Et il faut bien le dire, souvent face à l'Europe en particulier, un nationalisme. C'est donc dans cette langue-là qu'il s'agissait de transporter Racine et de transporter Molière. C'est amusant le mot transporter, dans le mot transbordement, le mot serait plus juste. Mmh. Mais transporter.
La langue est un moyen de communication.
Oui, oui. Et donc, Aldine Vezos voulait absolument préserver l'alexandrin. Ce qui la conduisait, elle, si honnête, si aiguë, si sensible, ce qui la conduisait quand même à un petit bricolage. C'est-à-dire que, quelquefois, il fallait remplir l'alexandrin norvégien pour lequel l'alexandrin français pouvait se révéler trop court, ou à l'inverse, trop plein. Donc, évider dans certains cas, rajouter dans un autre, ça ressemble bien un peu à un bricolage littéraire. Et puis, il y avait, explicitement formulé ou pas, une idéologie du texte. Bérénice, c'était le chant d'amour fou de deux amants obligés de se séparer. Ce n'est vraiment pas si simple. Et donc, je me souviens, à la fin, il y avait quelques petites interventions, pas tout à fait racinienne, pour aggraver encore, pour rendre encore plus bouleversant, plus émouvant le in vitus in vitam, le malgré lui, malgré elle de la séparation. Alors dans ces cas-là, et il faut compter beaucoup sur l'intelligence, sur la générosité, sur la délicatesse de l'interlocuteur, là, voilà, c'est lui dire que dans l'absolu, peut-être, le parti pris de préserver dans sa métrique, dans sa musicalité, dans sa sémantique aussi, le vers français est peut-être un pari un peu utopique. Et puis, il s'agit aussi d'introduire un tout petit peu dans la traduction, non pas du tout le parti de lecture de l'œuvre, surtout jamais mettre une traduction au service de sa propre lecture, jamais. Là encore, toujours préserver la tension au théâtre, toujours, toutes les tensions. Mais quand même, voilà, c'est un travail de très longue haleine, un travail... par exemple, nous avons été jusqu'à 7 versions pour Bérénice. 7 versions. C'est vous dire que, bien avant d'arriver dans le pays, la correspondance... mais c'est passionnant. En Argentine, c'est un universitaire argentin qui travaille souvent en France, qui s'appelle Francisco Javier, je crois que c'est comme ça qu'on dit en espagnol, qui avait assuré cette traduction. Et lui était parti d'abord d'une espèce... de conception beaucoup plus libérale du vers français. Ils ont préservé autant que possible la métrique et le rythme, mais en vers blanc. Enfin, ils ne s'assignaient pas les rimes, ils ne s'assignaient pas la mystique, ils ne s'assignaient pas... Voilà.
Oui. Est-ce que le travail que vous faites sur la langue d'accueil, Jacques Lassalle, est un révélateur pour vous sur les sens cachés du texte original ?
Dans le cas du voyage à l'étranger, la langue d'accueil, cette langue étrangère donc, pour moi, me révèle souvent un point de vue sur l'œuvre originelle. Et ce point de vue, quelquefois, me sidère. Enfin, par exemple, la scène sous la table de Tartuffe, devenait une farce énorme, alors que c'est une des scènes les plus complexes, les plus ambiguës, les plus ce qui se passe entre le mari, l'épouse, le mari Orgon, l'épouse Elmire et le séducteur interdit Tartuffe. Enfin, c'est tout ça, c'est une façon très privilégiée de comprendre dans la traduction la façon dont une culture, une appréhension de la littérature des autres est perçue. Voilà. C'est très important. Et ce que j'ai rencontré chez le traducteur comme préjugé inconscient même, je le rencontre après, jour après jour, avec les acteurs, avec...
Voilà, parce que ça, c'est la...
Et avec la presse et avec le public, le jour venu, enfin.
Les acteurs, c'est l'étape suivante. Il y a aussi un travail à faire avec la troupe, éventuellement, avec les acteurs. Et j'imagine que le travail du metteur en scène varie en fonction des spécificités culturelles des acteurs qui vont monter au spectacle.
Alors là... J'ai quand même envie de répondre à la question que vous m'avez posée. Comment peut-on mettre en scène à l'étranger sans manier la langue ? Et j'ai longtemps cru, et je crois toujours à certains égards, que le moins exportable des artistes, même à le considérer comme artiste second degré, un artiste interprète, le moins exportable, c'est peut-être le metteur en scène. Je crois que le metteur en scène, parce que le metteur en scène travaille dans la langue, enfin. Que fondamentalement, mettre en scène, c'est travailler dans la langue, non seulement le texte, mais travailler aussi la relation au texte. C'est-à-dire, on met en scène, en inventant une langue chaque fois singulière, non seulement pour l'œuvre considérée, mais pour chacun des acteurs à qui on s'adresse. C'est un jeu permanent de références, d'échos, d'emprunts biographiques, quelquefois, d'emprunts à de toute autre forme d'expression artistique. C'est cette façon d'amener l'acteur dans la construction du rôle, sûrement, qui caractérise le mieux la relation dans la langue, cette aventure de la parole qui est aussi la mise en scène, qui est peut-être d'abord la mise en scène. Alors à l'étranger, on pourrait penser, que reste-t-il de tout ça ? Il se passe une chose étonnante, en tout cas en ce qui me concerne. Les premiers jours autour de la table, bien sûr, on a grand, grand besoin de la personne qu'on vous a donnée pour traducteur, pour médiateur entre vous et ces comédiens qui, entre parenthèses, très souvent, ont formulé le souhait de travailler avec vous parce qu'ils sont amoureux de la langue, de la littérature de votre pays, et quelquefois la parlent très bien. Il y a toujours, dans toutes les distributions à l'étranger que j'ai, deux ou trois acteurs qui, avec beaucoup de modestie, m'affirment en me saluant en français, qui n'en savent pas plus, et dont je découvre jour après jour, au moins qu'ils me comprennent à peu près parfaitement quand je... Et j'ai même vu des acteurs que j'ai retrouvés d'aventure en aventure, qui, la première fois, ne parlaient pas un mot de français, et qui, quelques années plus tard, parlait un français déjà très... C'est très étonnant. Voilà aussi une des formes d'échange et de... Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que, après quelques jours, disons quelques semaines, quand on est sur le plateau, cette langue que je ne comprends pas, je sais presque encore mieux la façon dont l'acteur la parle... Elle a fait signifier que s'il parlait en français, c'est très étonnant. C'est-à-dire comme si j'allais à l'essentiel. Je sais exactement quand l'acteur se trompe, quand il dévie, quand il introduit un contresens. Je le sais immédiatement. À telle enseigne que il s'est trouvé que j'ai un peu d'intervalle. J'ai mis en scène Bérénice, encore une fois, en norvégien puis en français. Ou d'ailleurs le misanthrope, j'ai commencé par le mettre en scène à New York. Et ensuite, j'ai mis en scène en français. Et j'avais été tellement frappé dans les deux cas par la qualité et l'apport singulier des acteurs norvégiens pour Bérénice et américains pour le misanthrope, qu'il m'arrivait de ne plus entendre mes acteurs français et d'entendre encore dans cette autre langue que je ne connaissais pas, mais qui m'était devenue une musique très, très prégnante, très entêtante. Et que mes acteurs français étaient tout à fait mécontents, très jaloux, enfin, que je puisse leur dire qu'il m'arrivait de mieux comprendre l'œuvre lorsqu'elle était parlée dans une autre langue. Voilà.
Mais la direction d'acteur...
C'est une chose très étonnante.
Jacques Lassalle, c'est pas seulement une histoire linguistique.
Non, non. Mais à l'étranger, évidemment, la dimension linguistique de l'aventure prend quand même une importance tout à fait importante. Oh non, ça n'est pas que linguistique, bien sûr. La tradition de l'acteur à l'étranger est aussi une tradition du corps, enfin, et une tradition de l'expression gestuelle. Par exemple, en Argentine, ils avaient accepté que je les traite, ça les faisait beaucoup rire, d'acteurs pompa. La pompa, vous savez, c'est cette ces interminables étendues plates où on peut faire 1000 kilomètres sans rencontrer pratiquement âme qui vive et sans lever le pied de l'accélérateur. C'est-à-dire, on met la voiture une fois pour toutes en cinquième, on écoute la radio qui distribue une espèce de musique d'ascenseur permanente. Voilà. Et il peut arriver que le débit de l'acteur argentin, lorsqu'il a affaire à un texte très constitué, puisse un peu rappeler ça. C'est-à-dire, on se prête presque négligemment à la profération d'un texte que rien, par ailleurs, ne vient habiter vraiment. Enfin, parce que il y a une théâtralité spontanée de l'acteur argentin qui n'est pas sans rappeler celle de l'acteur italien, et à certains égards de l'acteur espagnol, ce sont des pays méditerranéens, et tout de même l'Argentine, qui est le pays le moins latin de l'Amérique latine, est le plus européen, en tout cas par l'origine de ses émigrants. Encore que l'Europe en Argentine est un fantasme. Enfin, c'est un... Mais on est quand même en présence de cette théâtralité spontanée, de cette théâtralité de rue, jacassière, extraordinairement mimétique, extraordinairement bruyante, très, très macho chez les hommes, très, très hanté de séduction et d'autorité, enfin. Et la première chose à faire, plus encore là qu'ailleurs, c'est de tout mettre à plat, enfin. C'est-à-dire de faire accepter l'idée que le théâtre, c'est l'antithéâtralité, au sens... que le théâtre, c'est le texte, c'est la voix, c'est le geste nu, c'est même l'homme nu, et c'est tout le corps convoqué. C'est-à-dire que je ne mime pas les passions, les sentiments, le choc des idées et des uniquement par une sorte de gestion langagière comme ça. Il faut que tout y passe. Et alors là, c'est leur faire une violence, à quelques exceptions près, c'est leur faire une violence inouïe. Enfin, le théâtre, c'est pas si grave que ça. Enfin, surtout quand on est un grand acteur, éprouvé comme tel, alternant le cinéma, encore que le cinéma argentin est en train de renaître d'une façon magnifique, ceci, comme il arrive souvent, à la faveur de la crise, enfin à la faveur de...
Mais parce que quand vous étiez en Argentine, c'était la crise et le théâtre n'y échappait
mais
pas.
C'est ça qui était extraordinaire, c'est que après ce premier voyage que j'évoquais hier, j'ai retrouvé de janvier à mars 2002 une Argentine qui était en quelques semaines, qui avait sombré dans la faillite absolue. Le peso était passé d'une parité factice, mais d'une parité quand même au dollar, à une réduction de 5 fois. Les banques ne payaient plus. L'argent était parti à temps. L'argent de ceux qui en avaient était parti à temps dans les banques américaines ou européennes. C'était la misère absolue. Ce théâtre très, très bien doté, très, très officiel, que j'avais connu en octobre, n'avait plus... C'est-à-dire que là où on était le décor, c'est-à-dire la structure était établie, etc., mais il n'y avait pas de vitres à l'intérieur des structures métalliques, il n'y avait pas de tapis, il n'y avait pas de... Enfin, tout était arrêté, il n'y avait plus un sou, ni pour payer les acteurs, ni pour payer quoi que ce soit. Et la rue, évidemment, se rendre au théâtre, en faisant attention, surtout à partir de 20h, s'était croisé de longues files de ce qu'on appelait les... Vous savez, les gens à casserole, les gens qui font... Et puis des cartonados, c'est-à-dire ceux qui vivaient de l'épluchage des poubelles, enfin, voilà. Et dans cette Argentine hagarde, qui s'en remettait au ciel très souvent, qui évoquait Evita Perón, bien sûr, dont certains rêvaient d'un retour en force d'un pouvoir fascisant. Dans cette Argentine-là, dans cette Argentine où les jeunes artistes retrouvaient dans cette espèce de terrible dépression généralisée, retrouver la force de s'exprimer, de se révolter. Et il y avait tout un théâtre alternatif, un théâtre de rue, qui essayait de traduire en actes, en réflexion et en action cette révolte contre la... comment dirais-je, contre la conduite politique et économique du pays qui avait conduit à ce fracas. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que mettre en scène Molière dans un théâtre institutionnel, alors que la rue est à feu et à sang, ou risque de devenir à chaque instant, où vous ne pouvez pas prendre un taxi parce que statistiquement vous avez 2 chances, 1 chance sur 3 ou 4 de ne plus en revenir. Qu'est-ce que ça veut dire, où vous travaillez avec des gens qui n'ont pas été payés et qui ne le seront pas avant longtemps, et qui trouve quand même la générosité et l'élégance d'être là, d'être heureux d'être là et de trouver dans le travail théâtral quelque chose comme un, comment dirais-je, comme un dérivatif provisoire à leur angoisse quotidienne. Qu'est-ce que c'est qu'être là alors que une majorité du pays cherche l'argent pour payer le retour en Europe, sinon des parents, leur sort, mais au moins de leurs enfants, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Là se posent toutes les questions à la fois. Elles sont politiques, elles sont éthiques, elles sont artistiques. Comment inscrire un petit peu quelque chose de cette tension-là, de cette violence du monde où l'on s'inscrit et où on inscrit le spectacle, dans le spectacle lui-même? C'est très difficile. D'autant que Cette distribution m'avait été très courtoisement, non pas imposée, mais suggérée après un certain nombre d'auditions. Et j'avais dans la troupe un microcosme de la société argentine.
En tout cas, ça s'est très bien passé. Et vous êtes parti, vous avez quitté l'Argentine avec le désir d'y revenir, Jacques Lassalle. Nous, on avait annoncé en début d'entretien que nous irions, après Buenos Aires, à Varsovie. L'avion n'est pas parti, donc on essayera de nous y rendre demain et peut-être aussi en Italie. À voix nue, Jacques Lassalle, Alain Weinstein.
Demain, la suite de cette rencontre en 2004 entre Alain Weinstein et Jacques Lassalle qui vient de nous quitter. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, Ghislaine David, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.